Les Rituels saison 4, la suite.
Je trouve qu'on fait quand même un métier qui prend du temps. Il faut porter des projets pendant 2, 3, 4, parfois 10 ans pour certains projets. Et en fait, j'ai la sensation qu'il n'y a pas quelque chose de très fort qui part des tripes. Ça s'essouffle, quoi. C'est très compliqué, je trouve, de porter un projet pendant plusieurs années, d'arriver encore à le défendre. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que si je partais pas de quelque chose de très fort en moi, j'arriverais pas à le défendre.
À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles? Comment écrivent-ils? Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinévox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. J'aime bien ne pas connaître la fin, c'est aussi une façon de ne pas abandonner mes personnages et de les garder un peu avec moi. À 30 ans à peine, Paloma Sarmondaï a déjà une riche carrière derrière elle et devant aussi à n'en pas douter. Son premier long-métrage, le documentaire Petit Samedi, sélectionné à la Berlinale, a remporté de nombreux prix, dont le Bayard d'Or au Festival de Namur et le Magritte du meilleur documentaire. Son deuxième long-métrage, La fiction Il pleut dans la maison, qui sort ce mois-ci, a remporté le prix du jury à la Semaine de la critique de Cannes, rien que ça, et lui vaut à nouveau le Bayard d'Or au Festival de Namur. Avec Paloma Sarmondaï, on a parlé d'écriture fictionnelle et documentaire, de procrastination et d'urgence, de ses productrices, beaucoup, et de briser des tabous et montrer les quotidiens et les territoires peu vus au cinéma. Bonjour Paloma.
Bonjour.
Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment ?
J'écris. J'écris, je procrastine aussi beaucoup, mais j'écris chaque fois que je suis chez moi. J'essaye de me relire dans les trains, et sinon je dirais que j'ai plutôt besoin de l'intimité et du calme de mon bureau, donc j'écris quand je peux.
Est-ce que vous êtes capable d'avoir plusieurs projets de front ? Est-ce que vous pouvez écrire plusieurs choses ? Et comment est-ce que vous enchaînez vos projets ?
Alors malheureusement non. Je sais qu'on dit toujours qu'il faut avoir un petit projet sur le feu, qu'il faut avoir des projets dans différents états d'avancement. Moi j'ai un peu de mal avec ça, mais par contre je les enchaîne quand même assez vite. Ma réflexion est quand même continue et souvent un projet en appelle un autre. Et voilà, là je suis en train de sortir mon film Il pleut dans la maison, mais je suis déjà en écriture du suivant, donc je me rends compte que quand je parle d'Il pleut dans la maison, j'ai déjà l'influence du prochain film, que j'ai beaucoup dans la tête, et donc la réflexion elle est quand même continue, donc disons plutôt que ça se chevauche, mais je mélange assez peu les choses.
Alors avant de se pencher sur les conditions de votre écriture, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez écrit ?
La première fois où j'ai écrit, comme tout le monde à l'école. Et alors souvent, je changeais un peu les sujets des devoirs qui m'étaient demandés pour écrire sur ce que je connaissais ou sur ce qui m'excitait un peu plus. Donc souvent, les dissertations, je les contournais. Et puis, je pense que mes premiers écrits, c'était sans doute des journaux quand j'étais très très jeune. Puis j'écrivais des petits spectacles pour mon chien aussi quand j'avais 7 ans, des petits spectacles de cirque où il y avait une certaine structure comme ça, et on commençait par un petit épisode de danse et puis un spectacle de saut. Je me souviens d'avoir écrit, d'avoir fait des petits dessins sur ce à quoi elle ressemblait cette petite pièce, donc je crois que mes premiers écrits c'était plutôt ça, oui. Et puis des journaux d'espionnage aussi, avec ma meilleure amie on se mettait dans le parc du village tout en haut d'un arbre et alors on faisait des comptes rendus un peu d'inspecteur de police où on notait les plaques d'immatriculation des gens, à quelle heure ils partaient au travail, s'ils étaient deux, s'ils étaient trois, si les enfants étaient là, s'ils avaient l'air de se disputer ou s'ils avaient l'air heureux, oui je crois que c'était ça.
Donc c'est à la fois une écriture intime et aussi une écriture extime pour un public. À quel moment est-ce que cette pratique devient un possible avenir et un métier pour vous envisageable ?
Quand j'avais, quel âge j'avais ? J'avais 14 ans, je crois. J'étais à l'Athénée d'Andenne et assez naïvement, en fait, je trouvais le principe des sciences très beau. J'étais très fascinée par la nature et les animaux, donc je m'étais inscrite dans la filière sciences fortes. Et je suis absolument nulle en maths et en sciences. Donc très vite, l'école s'est rendue compte que c'était une très mauvaise idée pour moi parce que tous les cours d'options scientifiques étaient en échec. Et donc j'ai été convoquée par le directeur qui m'a dit « il faut absolument que tu changes d'option, sinon ton année, tu peux lui dire au revoir ». Et donc à ce moment-là, je me suis réorientée vers l'option art parlé et théâtre de l'école, qui était une option assez intensive. On avait, je sais plus combien d'heures, mais je crois que c'était plus de 10 heures par semaine, 8 heures, quelque chose comme ça, de théâtre. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé des cours d'éloquence, des cours de déclamation, des cours d'art dramatique. Donc j'étais vraiment plutôt sur scène. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte quand même de ma capacité à remanier des textes, à voilà, en déclamation, on faisait des assemblages de différents textes. Donc je me suis d'abord approprié la parole d'auteur et petit à petit, J'ai commencé à écrire des petits morceaux de texte pour compléter des mises en scène de spectacles, des choses comme ça. Donc l'écriture, comme possible métier en tout cas, elle est venue à ce moment-là. J'ai fini mes secondaires, j'ai d'abord présenté des concours d'école d'art dramatique. J'ai pas été prise. Et à ce moment-là, j'ai pris une année, alors on appelle ça une année sabbatique, moi je pense que c'était plutôt une année de dépression où j'étais à jouer à des jeux vidéo toute la journée, à regarder des séries et à me demander ce que j'allais faire du reste de mon existence. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis parvenu à renouer avec ce plaisir du cinéma que j'avais quand j'étais enfant. Je m'étais toujours dit que ça m'était inaccessible et que c'était pas un métier pour moi. Et bon, finalement, je pense qu'étant passé par le théâtre et ayant compris un petit peu comment ces métiers du spectacle fonctionnaient, je me suis rendu compte que je pouvais tenter, mais je suis quand même rentré par la technique. J'ai pas osé tenter directement une école de réalisation.
Et comment êtes-vous passé de d'abord la technique, puisque c'est ce qui vous semblait possible, à l'acte de réaliser et d'écrire vous-même?
Par ce merveilleux outil documentaire, parce que à la Haute École Libre de Bruxelles, l'école que j'ai fait, il y a des options techniques, mais il n'y a pas d'option à la réalisation. Après, chaque élève est libre sous certaines conditions, mais a l'opportunité en tout cas de réaliser des courts-métrages, fiction ou documentaire. Et moi, très vite, je me suis intéressée au documentaire parce que j'étais en train de me former à l'image, et donc j'étais assez intéressée par cette possibilité de vraiment travailler avec la caméra de manière assez directe. J'ai commencé à réaliser du court-métrage documentaire à l'école, j'ai fait un film de fin d'études, et ensuite je suis sortie de l'école, j'ai commencé d'abord à travailler comme technicienne, plutôt comme troisième, deuxième assistant de cam sur des gros tournages de fiction. Donc j'ai pu aussi découvrir cette grosse machine que sont les tournages de fiction, et un peu le béaba, le qui fait quoi, la multitude de ces métiers. Et puis ensuite, l'écriture est quand même revenue petit à petit parce que j'avais envie de faire un film avec mon frère et ma mère ensuite. Et donc, oui, je me suis remise à écrire, j'ai participé à un atelier d'écriture du CVB pour commencer à poser les fondations d'un possible dossier de documentaire. Ensuite, j'ai eu le plaisir de commencer à travailler avec Michigan Film. J'ai été chercher une petite bourse dérive pour avoir un prêt de matériel. J'ai été chercher la bourse Brouillon d'un rêve pour mettre un peu de beurre dans les épinards et continuer d'écrire. Et ensuite, petit à petit, je me suis mise à vraiment approfondir l'écriture de Petit Samedi. Mais ça s'est énormément écrit avec la caméra parce que régulièrement, j'allais filmer ma mère et mon frère. Et donc, voilà, j'ai vraiment mélangé les outils. Je me suis dit que ma force, c'était quand même de travailler avec la caméra. Et donc, c'était vraiment un outil d'écriture pour moi d'aller les filmer. Et c'est une méthode que j'ai continué de développer après dans mon travail de fiction.
Vu de l'extérieur, on a l'impression que les choses se sont vite et logiquement enchaînées pour vous. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que c'était ça, vous étiez cinéaste, ou est-ce que ça vous a pris du temps pour valider cet état?
Je me suis pas dit que j'étais cinéaste, je me suis dit que je devais faire Petit Samedi. Et en fait, j'ai vraiment avancé par étapes. Moi, je suis sortie de l'école et j'avais encore un rapport assez, enfin, j'étais en recherche de pédagogie, je dirais. C'est pour ça que j'ai été dans des ateliers d'écriture et que j'ai la chance de travailler avec Sébastien Dresse et Alice Lemaire chez Michigan Film, qui accompagnent beaucoup les projets, qui font vraiment un travail presque de direction artistique et un suivi des auteurs. Donc, j'avais encore ce cadre assez pédagogique pour me permettre de développer l'écriture parce que je suis pas spécialement une bonne élève. Donc, voilà, moi, l'écriture, c'était quelque chose, j'ai vraiment eu besoin de trouver ma méthode et de trouver mon style et essayer de ne pas forcément me comparer aux autres, en tout cas aux méthodes des autres. Et donc, non, j'avais cet objectif de faire Petit Samedi, et donc j'allais frapper à chaque porte, en fait, chaque petite bourse, chaque possibilité d'avoir un encadrement et de pouvoir faire avancer le projet, et d'arriver à cette finalité, d'avoir à la fois un dossier bien développé. Petit Samedi, c'est un documentaire qui est quand même très écrit, donc ça a pris du temps, en fait, d'arriver à développer cette écriture. Et donc, voilà, une fois que Petit Samedi s'est fait, on a eu la chance de le présenter à la Berlinale, le film a été assez bien accueilli, plutôt pas mal montré, et donc à ce moment-là, je me suis dit, ah, tiens, en fait, c'est à ce moment-là, je pense que le métier de réalisatrice s'est ancré un peu plus dans la réalité de mon quotidien. Et ensuite, après, en fait, c'est aussi les aléas de la vie, parce que je travaille encore pas mal sur des plateaux de fiction, et puis, alors c'est une anecdote un peu triste, mais j'ai eu un chien malade, j'ai eu un chien qui a eu des problèmes de santé et qui m'a un peu obligé à rester à la maison, et donc j'ai dû refuser beaucoup de tournages. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais essayer de continuer à écrire. C'est de ça qui est, c'est de ce drame un peu familial, ce drame canin qui est né, cette obligation quelque part de faire quelque chose à la maison et donc de continuer à écrire. Et c'est là qu'est venue cette envie d'écrire Il pleut dans la maison. Et à ce moment-là, on est parti en production légère, donc il n'y avait pas une obligation forcément d'écrire énormément. Donc ça m'a permis de continuer à développer cette méthode de travail qui est un mélange d'une écriture avec la caméra, de tourner des images qui composent petit à petit ce que va être la narration, et en même temps une écriture beaucoup plus libérée qui n'était pas forcément obligé de respecter tous les carcans de l'écriture de fiction traditionnelle.
Alors, on va s'attarder maintenant sur la logistique de cette écriture. Est-ce que vous écrivez souvent? Et si oui, quand de préférence?
Alors, j'écris, donc comme je le disais, je procrastine, mais j'ai appris à ne pas diaboliser la procrastination parce que je me suis rendu compte que le cerveau, c'est quand même un outil formidable et je pense que le cerveau travaille beaucoup sans nous. Je pense que l'inconscient arrive à résoudre beaucoup de problèmes sans qu'on s'en rende compte. Je pense que quand la machine est en veille, elle ne l'est pas tout à fait. Et donc, non, je procrastine beaucoup pendant ces périodes de préparation. Je lis beaucoup, plus que je ne regarde des films. Je pense que quand je suis en écriture, j'ai besoin plutôt de lire des romans plutôt que de regarder des films. Je regarde aussi des films, mais je regarde aussi des choses plus légères. Voilà, et j'ai besoin de beaucoup m'occuper. J'ai besoin de faire d'autres choses pour arriver à avoir des idées, en fait. Donc je vais cuisiner, je vais promener mes chiens, je vais ranger, je vais faire le ménage, je vais travailler au jardin, je vais faire plein de choses annexes qui vont me permettre, en fait, de laisser mon cerveau s'échapper, se relaxer, penser à autre chose. Et c'est à ce moment-là que les idées arrivent. Donc j'essaie toujours d'avoir de quoi prendre de petites notes à côté. Et après, j'ai besoin de créer une urgence, quand même. Donc je me mets des deadlines, les producteurs de mes films le savent, il faut que j'ai des deadlines assez strictes, et puis quelques jours avant la deadline, je mets un grand coup, et à ce moment-là, je vais écrire de manière assez intensive, toujours le matin, parce que je sens mon cerveau un peu plus éveillé, un peu plus actif le matin, donc j'écris le matin, et puis l'après-midi, je vais retourner plutôt à de la lecture, à écouter de la musique, à essayer de trouver des petites activités qui me permettent de relâcher la pression, mais en même temps, de réfléchir un peu de manière inconsciente, semi-consciente, prendre des petites notes par-ci par-là.
Où et comment vous installez-vous pour ces périodes d'écriture intensive?
Je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas une mouche dans la pièce parce que je suis très vite distraite. Donc je me mets dans un bureau fermé. Quand j'écris, je dois vraiment préparer tout à l'avance. Donc je dois préparer quelque chose à boire. Si je sens que je vais avoir faim, je dois préparer à manger. Je dois vraiment essayer de ne pas sortir de cette pièce avant d'avoir fini cette session d'écriture, parce que si je descends à la cuisine, c'est fini. Je vais voir un papillon dehors et mon esprit est relâché. À ce moment-là, je vais me dire, ah, mais quand même, je dois aller faire un peu de course et je dois ranger ça, et je me trouve plein d'excuses pour pas y retourner. Donc je dois vraiment presque m'enfermer. Je suis à deux doigts de jeter la clé. Donc voilà, j'installe tout, et puis une fois que je suis prête, je me mets à écrire sans musique, vraiment dans le silence. Et par contre, il m'arrive d'écouter de la musique pour me relire. Et c'est des musiques, ça varie. Parfois, c'est de la musique classique. Parfois, c'est des musiques qui vont être plutôt un peu la BO du film, des musiques assez inspirantes, qui vont tourner autour du sujet du film, ou en tout cas autour de l'atmosphère du film. Voilà, donc oui, c'est vraiment une petite bulle assez fragile que je me crée.
Quels sont vos outils d'écriture? J'imagine que vous avez un ordinateur, un traitement de texte, peut-être un logiciel, mais est-ce que vous écrivez aussi à la main? Qu'est-ce qui vous accompagne pendant ces séances?
Beaucoup de notes dans un cahier, j'ai des notes dans mon téléphone, parce que comme j'ai des petites idées qui viennent par-ci par-là, qui viennent me surprendre, je dois vite prendre des notes dans le téléphone, donc j'ai plein de... Enfin voilà, tout le monde a un smartphone, donc j'apprends rien à personne, mais j'ai plein de notes avec des morceaux d'idées, de trucs, de machin, c'est un grand bazar, donc j'essaie... Avant d'écrire, souvent, je repasse dans le carnet, puis je repasse dans les notes du téléphone pour être sûr de rien avoir oublié, et j'efface toutes les nombreuses mauvaises idées que j'ai eues pendant que je nettoyais mes toilettes. Et ensuite, j'écris sur ordinateur, j'écris pas avec un programme. Le programme, il vient plutôt vraiment en bout de chaîne pour plutôt des mises en page assez précises. Quand il faut remettre de l'ordre au dossier ou au scénario, à ce moment-là, je passe plutôt par des logiciels, mais sinon, j'écris sur Word.
Pour vous, est-ce que l'écriture est résolument un sport individuel ou est-ce que ça peut être aussi un sport collectif?
Je crois que ça dépend un peu des projets. Moi, je sais que mes deux premiers films étaient des films très intimes et j'avais du coup beaucoup de mal à partager ça avec d'autres personnes. J'avais presque une peur du jugement. Après, je pense que c'est aussi parce que j'étais pas encore en grande confiance avec mon écriture, donc j'avais toujours l'impression que mes textes étaient un peu mal agencés, un peu en dessous, donc je les partageais peu. Heureusement, je suis très à l'aise à l'idée de partager mes textes avec les producteurs du film, parce que ils me connaissent, et donc j'ai pas de gêne par rapport à ça. Et après, oui, le travail en groupe, je pense que ça dépend un peu des projets. Là, sur mon projet suivant, c'est un sujet qui est beaucoup moins intime, qui part beaucoup moins de moi-même, et donc j'ai plus de facilité, je pense, à le partager, parce que j'ai plus de distance, je me sens peut-être moins jugée sur ce que ça contient, donc je crois que ça dépend un peu des projets.
Comment vient l'étincelle qui fait naître un projet et où commence l'écriture pour vous?
Je crois que ça démarre toujours de quelque chose en moi, même si le projet, le prochain projet, c'est pas quelque chose d'intime, mais j'ai quand même toujours besoin que ça parte vraiment des entrailles. Je trouve qu'on fait quand même un métier qui prend du temps. Il faut porter des projets pendant 2, 3, 4, parfois 10 ans pour certains projets. Et en fait, moi, j'ai la sensation qu'il n'y a pas quelque chose de très fort qui part des tripes. Ça s'essouffle, quoi. C'est très compliqué, je trouve, de porter un projet pendant plusieurs années, d'arriver encore à le défendre. Et voilà, on est quand même sans cesse obligé de redéfendre des intentions de pourquoi on veut faire ce film. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que si je partais pas de quelque chose de très fort en moi, j'arriverais pas à le défendre. Donc, je pars toujours de quelque chose en moi. Je change pas ma méthode, que ce soit de la fiction ou du documentaire. Ici, mon prochain film, c'est une fiction, mais j'ai toujours besoin de me plonger dans de lourds repérages et dans une immersion dans un milieu. Il pleut dans la maison, ça se passait au lac de l'odeur. J'ai passé beaucoup de temps au lac de l'odeur. Ça se passe dans la vie de deux adolescents. J'ai passé beaucoup de temps avec les jeunes acteurs du film pour qu'ils partagent avec moi vraiment leur adolescence, leur vision de leur génération. Donc j'ai vraiment besoin de faire une grande plongée dans mon sujet. Ouais, l'écriture pour moi elle est très progressive et j'ai besoin de me sentir pleinement légitime de parler d'un sujet. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce qui est venu en premier dans le cadre de vos projets? Est-ce que c'est des personnages, des questionnements, des lieux? Est-ce qu'il y a une image initiale qui fait que tout se déploie?
Disons que j'ai quand même un rapport très fort au territoire, jusqu'à présent le territoire wallon, qui je pense vient du fait que j'ai eu une enfance, une adolescence où j'ai énormément observé. J'ai eu de la colère, j'ai eu un rejet, et maintenant du coup j'ai de la nostalgie et beaucoup d'amour pour ce territoire. J'ai eu plein de différentes phases, donc les premières idées, elles viennent souvent du territoire, et puis elles viennent de sentiments très intimes, elles viennent souvent d'une envie aussi de briser un tabou, que ce soit la drogue, la précarité, une envie de briser un tabou, et chaque fois de prendre le contre-pied, et d'arriver à faire des films solaires, où il y a quand même de la légèreté, du rire. Et pareil, je pense que ça vient de comment j'ai grandi. Moi, j'ai grandi avec toutes sortes de gens, dans toutes sortes de milieux. Mais voilà, j'ai vécu avec des gens qui vivaient des choses très difficiles et on arrivait toujours à garder un sens de l'humour et avoir envie de rire. Et je pense qu'il est né en moi une envie de prendre toutes ces choses difficiles et d'en faire des œuvres assez lumineuses, d'arriver à créer autour de choses difficiles. Donc oui, ça naît de ça. Et puis ça naît d'envie de donner la parole à des gens qui l'ont pas forcément, que ce soit en documentaire ou en fiction. D'arriver à aborder à montrer des quotidiens qui sont pas souvent montrés au cinéma, montrer des territoires aussi qui sont pas souvent exploités au cinéma. Et donc oui, ça vient de tout ça.
Vous avez parlé de l'importance des deadlines pour organiser votre travail et trouver une discipline. Quand vous commencez un projet, est-ce que vous vous fixez un cap, un objectif, ou est-ce que vous avez un mantra qui vous accompagne tout au long de l'écriture?
On a évidemment les deadlines des commissions, de financement, des dépôts auprès des télévisions, auprès de plein de choses. Donc ça rythme quand même le travail. Mais en plus de ça, moi je demande à mes producteurs de me mettre des deadlines intermédiaires pour vraiment avancer et créer l'urgence. J'admire énormément les gens qui, après malheureusement c'est pas toujours une volonté de leur part, mais qui développent des projets pendant de nombreuses années. Moi, pour le coup, j'ai vraiment besoin de. Je pense que j'ai un travail très instinctif, donc j'ai besoin de travailler dans une certaine urgence, encore une fois. Donc, c'est vrai que j'essaye de speeder pas mal. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, il y a 3 ans d'écart entre chacun de mes films, et j'essaye de garder un peu ce cap parce que j'ai envie de. Ouais, j'ai envie d'enchaîner les choses et de créer du rythme là où parfois, malheureusement, à cause des commissions, des financements, etc., il y a des moments de latence. Moi, j'ai besoin de rester sur le qui-vive et de. Aussi, je pense, pour arriver à défendre mes projets, j'ai besoin qu'il y ait un empressement et une envie pressante, quoi.
Est-ce que vous connaissez la fin dès le début quand vous vous mettez à écrire?
Non, je pense que dans mes films, on connaît même pas la fin quand on arrive au générique. Donc, non, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai plutôt travaillé des fins ouvertes. C'est pas complètement le cas du prochain. C'était des sujets qui me l'imposaient un peu, j'ai la sensation. Je prenais dans mes 3 précédents films, que ce soit le court-métrage ou les 2 longs, c'était vraiment des moments de vie, et moi j'avais pas envie d'enfermer les personnages dans une fin forcément définitive. C'est une façon, je pense, de laisser au spectateur la possibilité justement de se projeter dans ce qu'il veut. Après, il y a des gens qui voient chaque fois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il y a des gens qui vont vraiment ressentir une fin ouverte comme quelque chose de très plombant, ou justement comme une note d'espoir. Non, moi j'aime bien ne pas connaître la fin. Je crois que c'est aussi une façon pour moi de ne pas abandonner mes personnages, mais de les garder un peu avec moi et de me permettre cette possibilité d'imaginer, de continuer de vivre un peu avec eux, de me projeter sans. Enfin voilà, j'aime bien ce rapport un peu. Je suis pas Dieu, je peux pas. J'aime pas donner une fin aux choses.
Justement, quand vous écrivez, est-ce que vous avez le sentiment de vivre avec vos personnages qui vous accompagnent partout? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous obséder, quitte à vous réveiller la nuit ou vous interrompre, dans une conversation?
Complètement, oui, complètement. Et dans Petit Samedi, bah forcément, c'était ma famille, donc je vivais réellement avec eux, ce qui est très particulier dans le travail parce que on finit par mélanger le film, la vie réelle. C'est très drainant, c'est très fatigant parce que du coup, il n'y a plus de limite. C'est comme quand on est en télétravail quelque part, si on n'a plus de bureau, on travaille tout le temps, y a plus, on mélange le travail, la maison, la vie personnelle et le travail. Bah là, dans Petit Samedi, c'était ça pendant 2 ans en fait. On mélangeait tout et donc il n'y avait pas vraiment de moment de pause, il n'y avait pas de fin de repérage. Le repérage, il était continu. Après, oui, mes personnages me hantent beaucoup, mais d'une manière assez positive, je pense. J'ai tendance à me dire, tiens, comment il réagirait là? Qu'est-ce qu'elle ferait? Ou alors, simplement, dans mon quotidien, je me mets à appeler mon chien ou mon chat par le prénom du personnage parce que j'ai passé la matinée à écrire et elle est avec moi, ouais. Ou je pense aussi que ça vient du fait que je me plonge énormément dans le sujet. Là, je travaille sur les influenceuses, donc je suis énormément dans ce monde d'Internet et donc j'ai l'impression d'être dans le quotidien permanent de ces influenceuses. Donc, elles sont tout le temps avec moi et j'ai l'impression, là, le personnage que j'écris, j'ai l'impression de le connaître comme si elle m'était très proche.
Quel est le rôle du titre pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide dans l'écriture ou est-ce que ça vient plutôt en dernier pour l'achever?
Ça dépend. Dans mon court-métrage Mackenzie, le film devait être beaucoup plus choral au départ. C'est vraiment un film sur le village où j'ai grandi, donc il y avait beaucoup plus de personnages. Petit à petit, ça s'est resserré sur ce personnage de Mackenzie, et donc au bout d'un moment, c'est devenu une évidence que le film allait porter son nom. Et puis dans Petit Samedi, le titre est, ouais, ça faisait vraiment partie du tout début, des fondations du premier dossier, du début de l'écriture. C'était venu d'un poème d'un auteur que j'ai oublié, qui s'appelait Petit Samedi, et puis c'est le nom de mon frère, donc c'était assez évident sur Petit Samedi, et puis c'était assez. Ça mettait tout le monde d'accord, tout le monde y trouvait une certaine poésie, un certain mystère autour du titre. Et puis Il pleut dans la maison, ça a été plus compliqué. Il y a eu plusieurs titres, et puis finalement, c'est plutôt venu à la fin du montage, et ça a été un titre un peu de débat qui était moins évident, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est dans une autre. Forcément, c'est un film de fiction, donc il y a une question dans quel film va sortir, il faut que ça parle aux gens, et on rentre forcément inconsciemment, consciemment, dans une optique un peu de marché, finalement, un film, on va pas se voiler la face, c'est un produit qui doit se vendre, et donc là, le titre, ça devient aussi autre chose, quoi. Il faut que le titre parle, il faut que le titre définisse quelque part quel genre de film on va voir. Donc, c'est des discussions qui sont plus compliquées, je pense, qu'en documentaire ou en court-métrage.
Qu'est-ce qui vous semble le plus dur dans l'écriture et le plus facile?
Je crois que le plus facile, c'est les idées. Et après, je pense que le plus compliqué pour moi, c'est la structure, je dirais. Je pense que j'ai pas du tout un esprit mathématique, donc moi j'ai tendance à développer des grandes descriptions de décors, de costumes, à vraiment créer une atmosphère dans l'écriture, et par contre à négliger un petit peu la structure, le plot point au bon endroit, le climax au bon endroit. J'ai une écriture un peu trop souple, mais finalement maintenant avec le recul, je me dis que c'est pas mal parce que encore une fois, arriver à créer une atmosphère et arriver à créer enfin, tout ça, finalement, c'est les intentions, c'est pourquoi on veut faire le film. Arriver à, dans l'écriture, à partager des envies de décor, un univers, des couleurs, une image, je pense que c'est une force. Et il vaut mieux, je pense, partir d'une matière un peu flottante et venir après, avec un esprit un peu critique, rajouter de la structure et rajouter un côté un peu militaire dans l'écriture dans un deuxième temps. Donc, je suis assez contente, finalement, d'arriver à, oui, à partager une atmosphère parce qu'en fait, dans les prémices d'un projet, je pense que c'est très important d'arriver à communiquer. Oui, à quoi va ressembler le film, pourquoi on veut le faire, quel va être le style de l'image, quel va être l'univers dans lequel vont évoluer les personnages, à quoi vont ressembler ces personnages, le moindre bout de vêtement, je pense, au début d'un projet, pour moi, a de l'importance, parce que je pense que quand on arrive à partager à l'écrit une image, c'est là qu'on va parvenir à séduire d'autres gens et à faire comprendre ouais, l'univers du film.
Et quel est selon vous votre pire ennemi dans l'écriture et votre meilleur allié?
Mon pire ennemi dans l'écriture, ouais, je pense que ça reste quand même un peu la procrastination. J'adorerais arriver à écrire plus souvent, à moins me fatiguer, à moins me. J'ai besoin de créer ces états d'urgence et de stress pour arriver à me mettre cette pression et à écrire. Et j'aimerais bien que ça soit arriver à transformer cette écriture en quelque chose de plus quotidien, presque créer une banalité de l'écriture, ne pas avoir besoin de créer cette urgence, mais plutôt arriver à, oui, à le faire couler au long cours dans mon quotidien. Mais ça va mieux, ceci dit, parce que je pense que c'était aussi parce que je travaillais des sujets qui étaient quand même très proches, très sensibles, très proches de moi, et donc écrire, c'était quelque chose de très douloureux. Il y avait quelque chose d'un peu psychanalytique, il y avait un partage de choses assez intimes qui était parfois difficile pour moi. Et en fait, là, dans un sujet qui est un peu plus éloigné de mon quotidien, de ma réalité, de mon histoire, je vois que je prends beaucoup plus de plaisir à écrire, et donc je suis un peu moins mon propre ennemi. Donc voilà. Et mon meilleur allié, je dirais, très honnêtement, je pense que c'est mes producteurs, mes meilleurs alliés. Parce que je pense qu'ils ont vraiment compris mon univers et qu'ils arrivent à m'aider à pousser le curseur toujours un peu plus loin. Et je pense qu'ils savent exactement comment me parler et comment me faire comprendre certaines choses.
Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire?
J'essaie d'enchaîner les projets justement pour pas créer de pages blanches. Après, oui, il y a des périodes où il y a des petits moments de flottement ou trop où je vais, mais je pense que c'est aussi cette création de l'urgence qui fait que je pense que c'est ça aussi qui me fait affronter cette page blanche, parce qu'en fait, de créer ce stress, créer cette deadline qui approche, ben, à un moment donné, en fait, je pense que le cerveau, il se met dans un état d'urgence et c'est là qu'il trouve des solutions. Donc, j'ai rarement des périodes où je sais vraiment pas quoi écrire. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la peur de est-ce que je vais arriver à faire un film après? Est-ce que je vais en faire encore un, deux, trois? Est-ce que je vais arriver à faire une filmographie, ou est-ce que à un moment donné ça va s'arrêter, je vais faire autre chose? Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est des moments un peu de doute, mais j'ai quand même beaucoup d'envie et j'ai l'impression que un film en appelle un autre, et j'ai la sensation que, en tout cas, je pense avoir encore quelques films en moi.
J'ai une dernière question pour vous, Paloma. Pourquoi écrivez-vous?
Pourquoi j'écris? François Sagan qui disait qu'on écrivait pour quelques personnes, finalement. Je pense qu'au début, j'écrivais pour moi et puis pour quelques personnes qui me sont proches. Et puis finalement, on se prête un peu au jeu du cinéma et petit à petit, on a quand même envie d'aller à la rencontre d'un public. Il y a une envie qui naît parce qu'en fait, à force de montrer les films, on prend du plaisir quand même à faire découvrir son cinéma. Et petit à petit, il y a une filmographie aussi qui se crée. On a envie de créer un univers, et puis les gens commencent à faire des ponts de film en film et à reconnaître un peu notre patte, nos petites obsessions, nos petits... Enfin oui, il y a un univers qui se déploie, et donc petit à petit, c'est vrai qu'on a... En tout cas, moi, j'ai envie de faire des films qui vont peut-être un peu plus à la rencontre d'un public. Donc oui, je pense qu'on fait d'abord des films pour soi, et puis pour quelques personnes qui nous sont proches et qu'on aime, à qui on a envie de... En tout cas, par lesquelles on a envie de passer, on a envie d'avoir des premiers retours, on a toujours envie qu'ils soient... de la part de gens proches, qu'on aime, à qui on fait confiance, et puis ensuite via le public.
Merci beaucoup, Paloma.
Merci, merci à vous.
Merci mille fois à Paloma Sarmondahi de nous avoir confié ces rituels, et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les partager, les commenter, les liker et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Rosine Bacam.